Au quotidien, avec Hélène Denis.
Si vous sortez, n'oubliez pas votre parapluie ou portez l'imperméable. Bon mardi! Mardi gris, pluvieux, frais. Nous sommes le 10 juin 2025. J'espère que vous allez bien. À 10 jours de la fête nationale. Êtes-vous prêt, Mathieu?
Oui.
Avez-vous sorti vos drapeaux?
Pas encore. J'ai mes tatous temporaires prêts à être appliqués.
Ah oui, vous portez le tatouage, vous. Oui,
exactement. En plein milieu du front, une belle fleur de lys. C'est magnifique.
Aujourd'hui, vous avez un gant de boxe sur votre T-shirt. Un gant de boxe rouge.
Eh oui.
Alors, et on est à 3 jours des Franco, c'est encore plus proche, 3 jours des Franco de Montréal, et on prévoit du très beau temps.
C'est vrai?
Oui, en espérant que monsieur ou madame Nature ne change point d'idée. Alors, cela dit, aujourd'hui, nous aurons de la belle musique, des chansons, entre autres, d'artistes qui vont présenter des spectacles au Franco de Montréal, que ce soit gratuitement ou en salle. On aura également les paractualités. Les unes, la chronique livre avec Anne-Marie Aubin qui s'est intéressée à un roman ado, Mia Bella de Lucie Bergeron. Et à la chronique économie, Michel Poitvin nous a concocté un florilège de nouvelles économiques, bien sûr. Entre autres, il va tenter de répondre à la question « Pourquoi le gouvernement québécois a-t-il décidé d'abolir le prix plancher sur l'essence après 28 ans? » Et on parlera bien sûr du grand écrivain Victor Lévy-Beaulieu. On a appris sa mort hier. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Et on en parle dans les journaux aujourd'hui. Une personne de lettres précieuse, importante, qui a laissé sa marque à peu près partout dans le monde de l'écriture, de la littérature, de l'édition.
Les nuages sont aussi lourds qu'un voyage de garnotte. Il y a encore des trous à remplir dans l'entrée. Même si le ciel est gris, je me peinture dans un coin. Puis je souhaite que tout aille mieux demain. Le soleil se lève à chaque matin. J'imagine que c'est pas pour rien. J'aime ça me dire que c'est pour rien. Au travers de mes journées. Je vais finir mon assiette avant d'aller marcher. Ça s'enligne pour être une maudite belle journée. Je vais faire un autre café avant de m'en aller. Les chums sont au bord, je m'en vais les retrouver. Le soleil. Enfin, je recommence à respirer. M'en refaire un tour de char avec la radio dans le trailer. Ça se pourrait bien qu'à soir, je veille un peu tard. Le soleil se lève à chaque matin. J'imagine que c'est pas pour rien. J'aime ça me dire que c'est pour moi. Ça m'aide à passer au travers.
Le soleil se lève à chaque matin, une chanson de Danny Placard.
Même s'il y a des matins où ça ne paraît point. À la une du Journal de Montréal, la frustration, grève à la STM, la frustration qui monte. Le titre « Métro, boulot, autobus et chaos ». On aurait pu écrire aussi « Métro, boulot, chaos, dodo ». mais il y en a qui sont couchés tard parce que il y en a qui ont attendu longtemps le dernier tour de métro en fin de soirée. La première journée de grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal a causé tout un bordel dans la vie des usagers frustrés d'avoir été laissés en plan, écrit Anouk Lebel. C'est frustrant, je ne peux rien faire, il faut que j'abandonne tout. Je ne peux aller au travail, je ne peux pas aller m'entraîner, a fustigé David Nguyen. Le travailleur du centre-ville venait de manquer le dernier métro de la station Longueuil vers 9h30 et envisageait d'attendre le prochain départ vers Montréal à 14h45. Il n'était pas le seul, de nombreux usagers s'entassaient devant les portes closes menant au quai à la recherche d'autres options. Jusqu'à demain, il n'y aura aucun service de métro ni d'autobus en dehors des heures de pointe en raison de la grève des quelques 2400 employés d'entretien de la Société de transport de Montréal. Des perturbations sont aussi à prévoir les 12, 16 et 17 juin, quand la fréquence sera réduite de moitié en dehors des heures de pointe. Le service ne sera toutefois pas touché lors du Grand Prix de Formule 1, soit les 13, 14 et 15 juin. Les employés d'entretien du syndicat du transport de Montréal, CSN, dénoncent des reculs dans les conditions de travail, dont c'est ça, les reculs dans les conditions de travail. Et on parle aussi d'Uber, plus cher en Uber qu'en taxi. Dès la paralysie partielle des services de métro, l'application de transport Uber a doublé ses tarifs en raison de la forte demande. Merci de la solidarité. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Selon les vérifications de l'agence QMI, un trajet entre les stations Joliette et Berry-UQAM était facturé 35 $ à 9h21, avant de redescendre à 17 $ une heure plus tard. À l'inverse, l'entreprise de taxi Taxelco, qui regroupe Théo Taxi, Taxi Hochelaga, Taxi Diamond, Radio Taxi Union, Taxi Châteauguay et Taxi Centre Belleuil, va maintenir ses tarifs réglementés pendant la grève malgré la forte demande. Et on parle aussi de la ruée vers les Bixi. On a augmenté l'offre et ça a pris vraiment pas de temps avant que les bicyclettes soient empruntées. Et puis, des milliards pour l'armée. Carney veut plaire au président, écrit Guillaume Saint-Pierre. Trump nous a enfin réveillés, selon Emmanuel Latraverse. À la une, Journal de Montréal, on voit aussi Victor Lévy-Beaulieu qui est en train de fumer la pipe. Un grand auteur n'est plus. Victor Lévy-Beaulieu, 1945-2025, il aurait eu donc 80 ans cette année. À la une du Devoir maintenant, des usagers de la STM pris en otage. La première de 9 journées de grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal a bousculé les habitudes des usagers du métro et des autobus qui ont dû trouver des solutions de rechange pour se déplacer lundi. Ce conflit de travail survient en période de restrictions budgétaires pour la STM qui fait face à un important déficit d'entretien de ses tunnels de métro. Aussi, des syndicalistes, une photo avec le drapeau américain, des syndicalistes et des sympathisants se sont rassemblés à Grand Park lundi pour réclamer la libération du dirigeant syndical David Huerta, arrêté lors d'une opération de contrôle de l'immigration à Los Angeles, en Californie. La tension reste vive dans la ville en ce troisième jour de manifestation pour les droits des immigrés. Une analyse de Fabien Deglise, l'immigration, un sujet toujours payant pour Trump. Le populiste sait qu'en nourrissant une nouvelle crise sur le dos des illégaux, il affaiblit ses opposants, tout en maintenant en vie les moulins à vent contre lesquels il se bat. Et on a aussi une photo de Victor Lévy-Beaulieu en chemise de chasse rouge et noire. Victor Lévy-Beaulieu, géant des lettres, n'est plus. Et finalement, à la une de la presse plus d'aujourd'hui, entre frustration et confusion, grève à la STM, récit d'une première journée marquée par les perturbations du service du métro et des autobus montréalais. Et à ce sujet, une mise à jour de Karim Benassia, journaliste à la presse. Après la confusion de lundi, la Société de transport de Montréal a changé sa stratégie mardi pour la deuxième journée de grève de ses employés d'entretien. Elle a publié sur son site les horaires des derniers départs à chaque station. L'annonce de la fin du service de métro à 9h38 en matinée lundi avait suscité la frustration chez des centaines d'usagers. Comme l'avait rapporté la presse au cours des derniers jours, cette heure correspondait en réalité à l'arrivée de la dernière rame en tête de ligne et non à celle du dernier passage à chaque station. Résultat, de nombreux usagers se sont retrouvés le bec à l'eau lundi sur les quais de différentes stations, ayant raté le dernier métro. Les stations de métro ferment au fur et à mesure que le dernier train effectue son dernier passage, souvent à l'heure du service essentiel, a expliqué la STM dans un communiqué publié lundi soir. Mardi, donc aujourd'hui, les usagers ont accès à des horaires plus détaillés indiquant pour chaque station sur les quatre lignes l'heure estimée du passage du dernier train à l'adresse stm.info/grève, stm.info/grève. On peut, par exemple, y constater que sur la ligne orange, après être parti de Côte-Vertu à 8h48, le dernier train matinal passe à 9h12 à Berry-UQAM, 9h21 à Jean-Talon, pour atteindre son terminus de Montmorency à 9h34. Autre exemple, sur la ligne verte où le dernier métro part de Honoré-Beaugrand à 8h56, il atteint donc Berry-UQAM à 9h13, puis Lionel-Groulx à 9h22 et le bout de la ligne en Grignon à 9h33. Ce même principe s'applique à l'heure de pointe le soir et ce, sur toutes les lignes. Il est fortement suggéré de se présenter en station 10 minutes avant le passage du dernier train pour assurer votre déplacement, précise la STM. Quant aux autobus, ils n'ont pas droit à des horaires aussi détaillés. On conseille aux clients, entre guillemets, de se fier aux horaires en temps réel disponibles sur des outils comme Chrono et Transit ou sur le site web de la STM. Trop malade pour être jugé, on parle ici de Robert Miller. Tout porte à croire que le milliardaire échappera à son procès criminel. Et aussi, Victor Lévy-Beaulieu, un géant s'éteint.
Quand la pluie sonne à mon carreau, la pluie d'automne, trop monotone, à force d'eau, partie de cartes, jouer sur l'eau, chaque ronronne sans aucun tas. Tel un cabot, la pluie de l'automne me fend le cœur en plusieurs morceaux. Paris les bains, Paris chagrin, Paris station balnéaire. Le pied marin ne me sert à rien sans bord de mer, sans brise l'âme et sans cargo. Adieu Paname, tu pleures trop. Quand la pluie cogne sur les carreaux, les lits frissonnent de la Sorbonne au maréchaux. Insolente, mouilleux les tempes, glace les dos. prochain hors d'âge, bons hors d'usage, les marrons chauds. La pluie de l'automne me fend le cœur en plusieurs morceaux. Paris les bains, Paris chagrin, Paris station balnéaire. Le pied marin ne me sert à rien, sans bord de mer, sans brise l'âme et sans cargo. Adieu Paname, tu pleures trop. Sans demoiselle sur un piadio. Adieu Paris, hasta luego.
Benjamin Biolay. Adieu Paris.
Oui, sa voix craquante. Victor Lévy-Beaulieu, géant des lettres habiles dans tous les genres, l'écrivain, éditeur et scénariste de la télé, est mort chez lui à Trois-Pistoles à 79 ans. Il en est question dans plusieurs journaux ce matin. Je vous lis le texte de Stéphane Baillargeon dans Le Devoir. Il avait un côté rabelaisien et la tête d'un pêcheur, barbe touffue, tête hirsute et pipe comprise. Victor Lévy-Beaulieu était une sorte de machine à écrire faite homme et aucun genre ne lui était étranger. Le roman, le théâtre, les essais critiques et polémiques, les biographies, les téléfeuilletons, le reportage, la chronique ou la poésie. Considéré comme l'un des plus grands écrivains québécois, l'homme de lettres est décédé à l'âge de 79 ans. Il aimait profondément son coin de monde, qu'il a célébré par des milliers et des milliers de pages. Il souhaitait viscéralement l'indépendance du Québec et il avait pour volonté d'ériger un pays en élevant une littérature à sa hauteur. Grand lecteur, il a consacré beaucoup de livres à ses grands prédécesseurs, en plus d'écrire plusieurs téléromans à succès pour Radio-Canada et devenir un éditeur de choix. Sa vie, très bien rempli au service des mots, s'est arrêté dans la nuit de dimanche à lundi dans sa résidence de Trois-Pistoles. Il voulait mourir chez lui accompagné de ses filles. C'était un homme simple au fond, malgré les apparences de complexité qu'il pouvait avoir. Ce qui était important, c'est son monde, d'être ensemble, a déclaré sa fille Mélanie en entrevue au Devoir. L'écrivain d'exception, auteur d'une des œuvres les plus fournies du pays, naît à Saint-Paul-de-la-Croix en 1945. « Je suis le sixième d'une famille de 13 enfants. Je n'ai jamais vécu plus de 5 ans au même endroit », écrit-il dans les années 1970. Il vit alors depuis des années à Trois-Pistoles, où il est un entrepreneur de la culture peu ordinaire, animant une maison flanquée du nom de son patelin, mais aussi un café-théâtre, entre autres choses. Grand lecteur et boulimique d'écriture, il se démarque au début de sa vingtaine en 1967 avec un court essai sur Victor Hugo qui remporte le prix Larousse Hachette. Le grand écrivain du 19e siècle, dont il porte le prénom, sera aussi le sujet de son premier livre hommage pour saluer Victor Hugo en 1971. D'autres suivront pour saluer les écrivains qu'il admire, Jack Kerouac, 72, Monsieur Melville, en 78, Seigneur Léon Tolstoï, en 1992, Voltaire, en 1994, et puis encore James Joyce, Nietzsche et Jacques Ferron. Il adulait particulièrement ce maître québécois. Son premier roman, Mémoire d'outre-tonneau, paraît en 1969. Il en publiera bien d'autres, souvent au rythme d'une livraison par année, pour un total d'au moins 70 titres dans ce seul genre, tous écrits à la main. Sa discipline de créateur le pousse vers une de ses tables de travail, une pour chaque genre littéraire, tous les matins, selon un programme fixé d'avance. Son œuvre romanesque est décrite comme touffue et à la première lecture assez déroutante par un critique littéraire. Un autre parle d'un torsionnaire du langage, puisque son style use et abuse des jeux de mots, du calembour et d'autres manipulations stylistiques. En plus, Victor Lévy-Beaulieu maintient constamment une tension dans ses récits entre une réalité québécoise et une fantaisie onirique sans bornes. Il s'adonne aussi à des mélanges inusités et audacieux. Le récit, tel Blanche forcée, la lamentation, dans N'évoque plus que le désenchantement, l'hymne Sagamo Job J, la saga humoristique La tête de Monsieur Ferron, tous publiés en 4 années à la fin des années 1970. Aucun genre d'écriture ne le rebute. Il commence une carrière de journaliste et de chroniqueur à l'hebdomadaire Perspective dès 1966, poste qu'il tiendra une décennie tout en travaillant pour d'autres publications. Il est aussi scripteur au poste de radio CKLM, puis auteur de nombreux textes diffusés à la radio, notamment pour les émissions Documents et La Feuillaison. On lui doit aussi le scénario du Grand Voyage, réalisé par Marcel Carrière en 1975, et le téléfilm Hamlet en Québec. Il se démarque encore plus avec ses talents de scénariste pour la télé. Race de monde, 1978 à 1981, lance sa carrière à la télévision de Radio-Canada. L'héritage suit, 1987-1990, et s'avère un des plus grands succès de la télévision québécoise, suivi de manière hebdomadaire par plus de 2 millions de téléspectateurs. L'histoire remplie de rage et de mal de vivre met en scène la famille Galarneau, déchirée par l'inceste. Elle se déroule essentiellement à Trois-Pistoles et met en vedette Gilles Pelletier, Nathalie Gascon, Yves Desgagnés et Sylvie Léonard. Monsieur Beaulieu scénarise ensuite Montréal PQ et Bouscotte, tous deux diffusés à Radio-Canada. En même temps, l'écrivain travaille dans le milieu de l'édition. Après quelques années comme directeur littéraire aux éditions du Jour, 69 à 73, il fonde sa propre maison, l'Aurore, puis la maison VLB et finalement les éditions Trois-Pistoles. Victor Lévy-Beaulieu est aussi un défenseur de la cause indépendantiste fort en gueule. En 2007, il prend ses distances du Parti québécois, qu'il juge trop frileux sur la question de l'indépendance. Il se présente les années suivantes comme candidat indépendant, mais n'obtient que quelques pourcentages des voix. Son œuvre a été récompensée par plusieurs prix, dont le prix Gilles Corbeil de la Fondation Émile Nelligan pour l'ensemble de son œuvre. C'était en 2011 qu'il a reçu ce prix. Victor Lévy-Beaulieu laisse dans le deuil ses deux filles. Une cérémonie aura lieu mardi à Trois-Pistoles. Un autre hommage est prévu le 2 septembre, jour de son anniversaire. On pense à lui, on lui dit un grand merci et on offre nos sincères condoléances à ses deux filles et à tous ses proches. Pourquoi m'as-tu laissé à mon chagrin?
Un souvenir heureux, une chanson de Diane Dufresne.
Quelle belle chanson et quelle voix extraordinaire. On a des belles voix ce matin à l'émission, en plus de la mienne évidemment et de la vôtre, Mathieu. On se vante un petit peu, pourquoi pas. Alors, il y a une campagne record qui a été réalisée et c'est tant mieux. On a ramassé pas mal d'argent. C'est la plus récente campagne de financement annuel de la société Alzheimer, Brome, Missisquoi et Haute Yamaska qui a battu un record. Une somme de plus de 93 000 a été amassée à la suite des efforts des bénévoles et de la contribution des donateurs qui ont soutenu la cause et l'organisation. Le tout a été dévoilé lors de la tenue de la marche de la société Alzheimer présentée à Bromont. Voir la mobilisation grandissante de notre communauté et de nos partenaires me touche profondément. Grâce à cette participation grandissante, nous avons amassé une somme record, un appui qui a fait toute la différence pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif ainsi que pour leurs personnes proches aidantes. Ces fonds nous permettront d'élargir nos services essentiels comme les consultations psychosociales, la formation et le répit stimulation, a affirmé Sophie Foisy, qui est directrice générale de la société Alzheimer, Brome, Missisquoi et Haute Yamaska. Notons la générosité de la fondation Three Pines, fondée par Louise Penny, l'écrivaine, qui nous offre d'excellents polars, qui vit dans les cantons de l'Est. Alors, sa fondation a versé une somme de 15 000 $ visant spécifiquement à soutenir l'offre de services dans les milieux anglophones du territoire. Restez avec nous. Au retour, une chanson d'un groupe qui sera au Franco de Montréal. Et puis, tout de suite après, ce sera la chronique Économie avec Michel Poitvin.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. We'll be right back.
Petite gomme, une chanson du groupe Salbarbe.
Oui, qui sera au Franco cette année. Alors, c'est le moment d'aller joindre Michel Poitvin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors, quelques nouvelles économiques. Un pot pourri ce matin. Oui. Commencer par, à la fin avril, on avait parlé d'une possibilité d'éliminer le prix plancher sur l'essence au Québec et ça se concrétise, n'est-ce pas?
Ça s'est concrétisé, effectivement. En fin de semaine, là, le gouvernement a passé sa loi sur la réforme d'énergie, là, sous bâillon, mais on ne rentrera pas là-dedans. Et parmi les politiques qui font partie de la loi, on inclut l'abolition du prix plancher sur l'essence. Alors, je peux peut-être vous rappeler le prix plancher.
Allez-y donc.
Oui, c'est ça. On a parlé à la fin avril, là, parce que à la fin avril, on y avait fait allusion. Maintenant, c'est effectivement, ça s'est concrétisé. Donc, en 1997, le gouvernement de Lucien Bouchard avait donné le mandat à la Régie de l'énergie de fixer un prix minimum de l'essence à la pompe selon les régions. C'est en fonction des coûts, le prix du baril de pétrole. Il y avait un paquet de facteurs, puis ce prix minimum-là était fixé par région au Québec. Donc, ça pouvait différer d'une région à l'autre. Par exemple, à Montréal, les loyers sont plus chers, les coûts d'opérer une station-service sont plus élevés, donc le prix minimum était un peu plus élevé. Pourquoi on avait fait ça? On voulait protéger les détaillants indépendants, les petits détaillants, face à la concurrence des grandes compagnies de distribution, là, les SO, Shell ou même Costco de ce monde. Là, ce qui s'est passé depuis, pourquoi on change, c'est que, un, la structure de l'industrie a beaucoup changé, il y a beaucoup moins de petits détaillants. Et puis, en même temps, on se souviendra que le gouvernement fédéral a aboli la taxe carbone ailleurs au Canada. Nous, ça ne nous a pas affecté parce qu'on a le marché du carbone. Et donc, le prix de l'essence a baissé dans toutes les provinces, sauf au Québec. Puis là, on aimerait réduire un peu l'écart, mais on ne veut pas abolir notre marché du carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bien, on va enlever cette obligation d'avoir un prix plancher. Donc là, le prix pourrait plus, on espère qu'il va pouvoir plus descendre, il va avoir plus de concurrence, peut-être même des guerres de prix entre détaillants. Puis ça va favoriser le consommateur parce qu'il va payer moins cher à la pompe. Donc en gros, c'est l'objectif du gouvernement puis ce qui le motive. Peut-être deux choses à surveiller. Un, est-ce que le prix va vraiment baisser? Puis il y en a des experts nous disent, ben c'est pas si évident. Les taxes sont encore là. Il y a toujours le prix du baril de pétrole. Ça change pas, quoi qu'il n'est pas si élevé là, par rapport à d'autres périodes. Mm-hmm. Et, donc, il va falloir voir est-ce que ça va avoir un impact sur les prix à la pompe. Et l'autre chose... En région, où souvent on a des petits détaillants indépendants dans un petit village, dans une petite région, est-ce qu'il va y avoir des guerres de prix? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils vont survivre à cette guerre de prix-là? Est-ce qu'ils vont être remplacés? Il y a des gens qui ont peur là, pour les régions, donc ça va être à suivre. Suite à la politique. Peut-être l'autre annonce, là, je trouve ça un peu spécial, mais le gouvernement veut favoriser une transparence. Et puis là, ce qu'il a dit, c'est que chaque station d'essence devra communiquer au gouvernement à chaque fois qu'elle modifie son prix. Et là, le gouvernement veut offrir aux consommateurs, je pense à partir de 2026, une carte interactive des prix de l'essence au Québec pour favoriser une transparence des prix. Je me demande un peu pourquoi le gouvernement fait ça. On a des applications sur nos téléphones qui font ça. Par exemple, GasBuddy en est une. Là. C'est le nom anglophone. Il y en a peut-être d'autres aussi. Puis ça se fait sans l'aide du gouvernement.
Ouais.
En tout cas, le gouvernement a décidé de se lancer là-dedans. Là, parce que ça va être un fiasco comme le panier bleu. On verra bien, là, mais j'ai l'impression que ce petit bout-là, il aurait pu s'en passer.
Bon, alors...
C'est mon opinion personnelle.
Oui, on avait bien compris. Donc, bye-bye prix plancher sur l'essence après 28 ans. Et oui. Dans le Journal de Montréal, on écrit que l'abolition semblait pas avoir encore eu une répercussion sur le prix à la pompe hier. Mais là, ça vient tout juste de se faire.
Ben oui, c'est ça. Ça a été voté samedi. Donc là, il va falloir suivre ça un peu plus.
Le ministre Champagne a fait une annonce hier.
Oui, le ministre Champagne a évoqué la possibilité d'une loi pour favoriser l'achat canadien lors des appels d'offres publics, donc pour les contrats publics.
On parle ici du ministre des Finances et du Revenu national du Canada, François-Philippe Champagne.
Exact. Merci. Et donc, à chaque fois que le gouvernement souvent fait des appels d'offres pour des contrats, puis là, on veut favoriser l'achat canadien. Donc, excusez-moi l'anglicisme, mais ça serait un genre de Buy Canada Act, donc priorité au Canada. Aux États-Unis, ils ont le Buy America Act. Mm-hmm.
Comment on pourrait traduire ça?
Achetons la loi sur une priorité au Canada, mais il faut comprendre que c'est pas dans tous les contrats. Là, si deux compagnies ont un contrat privé, le gouvernement peut pas leur dire avec qui une compagnie peut faire affaire. Par contre, dans les contrats publics, c'est le gouvernement qui les gère, il peut les gérer. Mais il faut faire attention, on a un accord de libre-échange avec les États-Unis, donc ça pourrait être jugé comme une politique protectionniste. Donc, il va falloir être prudent. D'une part, les Américains l'ont, alors ça nous donne quand même une certaine légitimité. Et puis, ce que le ministre a dit, c'est qu'on pourrait évoquer un souci de sécurité nationale. Donc, pour plusieurs contrats publics, il y a peut-être effectivement des questions de sécurité nationale. Et puis, M. Trump l'invoque à qui mieux, par exemple, pour justifier ses tarifs sur l'acier et l'aluminium. Il disait que c'est des questions de sécurité nationale. Donc, j'imagine qu'on nagerait un peu dans ces eaux-là si on développe une aide, une priorité là aux compagnies canadiennes. Le ministre nous dit que ça peut aider les PME dans certains secteurs, puis il a mentionné notamment le secteur de la défense, où le Canada et l'Europe vont augmenter significativement leurs investissements dans les prochaines années. J'en profite pour mentionner là, que le gouvernement a annoncé que pour atteindre la cible de 2% de dépenses militaires cible fixée par l'OTAN, au départ, il avait dit on va atteindre cet objectif-là autour de 2030, mais là, il semble accélérer. Ouais. Il voudrait l'atteindre dès 2025-2026. Et puis, ça ferait une augmentation de près de 9 milliards de dollars, énorme. Voilà. Donc, si on a le Buy Canada Act, ça veut dire qu'au moins cet argent-là va être recyclé au Canada. Mais en même temps, ça a certaines limites parce que on n'a pas des industries, on n'a pas des firmes dans tous les secteurs, peut-être où on voudrait en avoir. Puis des fois, c'est difficile de contourner certains fournisseurs américains. Donc, on verra effectivement l'impact d'une telle loi là, si elle est votée, parce que le ministre a fait comme juste évoquer la possibilité, mais ça semble être une possibilité sérieuse, mais c'est pas encore une loi.
Et finalement, Michel, il y a de la grogne dans le secteur du transport des écoliers.
Mais oui, il y avait un article et dans la presse et dans le Journal de Montréal. On interviewait M. Jonathan Lauzon, qui est dirigeant de Autobus Campo, qui lançait un cri de cœur ce matin, parce que lui, Autobus Campo, bon, c'est dans le transport scolaire, comme vous le dites, le transport des écoliers. Puis malheureusement, ce secteur-là semble être à la merci des sautes d'humeur du gouvernement. Alors, je vous explique. En 2021, le gouvernement a voulu accélérer l'électrification du transport écolier. Et puis là, on avait dit que tout nouvel autobus scolaire immatriculé devait être électrique. Donc, on a forcé l'achat d'autobus électriques, mais on a cette contrainte-là est associée à une subvention qui était substantielle. Là, c'était au-dessus de 100 000 $ de subvention pour acheter un autobus électrique. À l'époque, il y avait à peu près que Lyon qui en produisait, donc c'était une façon indirecte d'aider Lyon électrique également. Et puis, peut-être à moi, ça m'a surpris un peu, mais selon M. Campo, ça coûte plus cher à entretenir un autobus électrique qu'un autobus à essence. Et le gouvernement, probablement qu'il voyait la même chose, accordait une subvention annuelle d'entretien qui était, je pense, de l'ordre de 12 000 $ pour entretenir pour chaque véhicule électrique. Et ça, ce virage électrique-là, bon, on l'imposait aux compagnies, mais on le subventionnait. Mais là, le gouvernement arrive cette année, en 2025, puis il veut réduire de 60 % la subvention annuelle d'entretien. Et donc, selon M. Campo, je le cite, ça les oblige à opérer des autobus électriques achetés de force à perte. Alors, on opère à perte des autobus qu'on a été obligé d'acheter.
Avec 60 % moins de subventions pour les entretenir.
Exactement. Donc, je pense que la subvention est passée de 12 000 à 5 000 par année. Donc, quelqu'un qui aurait acheté, par exemple, 15 autobus électriques, il perd 5 000 $ par autobus par année. Donc, apparemment, ça met plusieurs opérateurs en difficulté financière. Alors, les gens demandent deux demandes, rétablir la subvention à l'entretien ou avoir quelque chose de semblable, puis aussi permettre l'achat d'autobus à carburant, là, tant que ce ne sera pas plus économique d'avoir des autobus électriques. Alors, je vais le mentionner, il y a toujours un risque politique quand on est dans une industrie qui dépend des subventions, parce que les gouvernements naviguent, on le sait, là, la planification à long terme, c'est pas toujours sa force. Puis là, c'en est un exemple. Puis le transport écolier, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a des compagnies de transport écolier qui vont faire faillite ou le gouvernement va réagir? Ça va être à suivre.
À suivre, certainement. La semaine dernière, oui. Vous aviez parlé du taux directeur, là, la Banque du Canada qui annonçait son taux directeur au lendemain de votre chronique. Finalement, je pense que vous l'aviez prédit que la Banque du Canada maintiendrait son taux directeur à 2,75. C'est ce qui est arrivé.
Oui, bon, je ne prends pas trop de mérite, là, je nie un peu, puisque ce que les experts semblaient dire.
Mais vous l'avez confirmé quand même.
C'est ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Puis la prochaine annonce, je pense qu'il y en a une en juillet, puis ensuite en septembre.
Bon, alors on va suivre ça. Merci beaucoup. On a plein de choses à suivre en économie. Il y a des hauts et des bas. C'est comme à la bourse, hein? Ça monte, ça descend.
Bien, c'est ça. Ça bouge toujours, au moins. Ça alimente ma chronique, sinon j'aurais plus de raison.
Ben oui. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
My doubts, made me believe in you. And no matter what the haters say about you, girl, I want to be next to you. Believe in my blues and sitting on the mountain.
Brooks, c'est Ben l'oncle Soul qui chantait More Than a Woman.
La table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière profitait de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour signifier que notre société est en recul fulgurant, en regard des conditions de vie des personnes handicapées et des proches aidants de personnes handicapées. Des questions s'imposent. Est-ce normal que, malgré un discours mettant de l'avant une société inclusive, le gouvernement du Québec n'a jamais mis autant en péril par ses décisions et orientations le mince filet social dont disposaient les personnes handicapées? Est-ce normal qu'un gouvernement, par ses propres décisions, vulnérabilise directement et sciemment les personnes en situation de handicap et personnes proches aidantes de personnes handicapées? Est-ce normal que le ministère de la Santé et des Services sociaux réduise les personnes handicapées au qualificatif de personnes vulnérables? Est-ce normal qu'en 2025, le gouvernement remette en cause le principe de compensation financière des limitations fonctionnelles? Des reculs, on en compte dans tous les dossiers relatifs aux personnes handicapées et aux personnes proches aidantes de personnes en situation de handicap. Pourquoi le gouvernement demeure-t-il silencieux? Pourquoi n'admet-il pas ses erreurs en tentant de les rectifier sans délai? Probablement parce qu'il constate que bon nombre de ses décisions ont un impact désastreux sur une bonne portion de la population et qu'à l'aube des prochaines élections, on ne veut pas trop inciter la population à se positionner. Les personnes handicapées, les personnes proches aidantes des personnes handicapées, ainsi que toutes les personnes œuvrant auprès de ces dernières, sont des citoyens et des citoyennes qui vont voter aux prochaines élections. Ce sont des personnes à part entière qui contribuent à l'essor d'une société plus inclusive, un pas à la fois. Les politiciens et politiciennes ne sont pas élus pour défendre ou représenter un parti politique, mais les citoyens et citoyennes qui les ont placés au pouvoir, tout le problème est là. Alors, ce communiqué a été publié le 5 juin sur lanoweb.info. Et aussi, une autre nouvelle, cette fois tirée du site de Radio-Canada. Ça se passe à Sudbury. 4 pièces de 5 cents de la taille d'un panneau d'arrêt et fabriquées à partir de fils seront visibles dans le Grand Sudbury en ce mois de juin pour sensibiliser au handicap de la surdicité. La forme d'art utilisée est du tricot urbain ou yarn bombing. Elle consiste à recouvrir des objets ou des structures publiques de fils tricotés ou crochetés. Il s'agit d'une initiative de l'organisme DOS, Deaf Blind Ontario Services, qui soutient les personnes sourdes et aveugles. Les résidents doivent faire la chasse à ces pièces qui sont réparties dans 8 endroits de la ville. Les pièces ont été conçues de manière à être suffisamment visibles, mais aussi suffisamment petites pour que les membres de la communauté puissent les déplacer dans la ville, indique Crystal Pigeon-Wick, responsable de l'engagement communautaire à Deaf Blind Ontario Services à Sudbury. Madame Pigeon-Wick précise que les personnes qui trouveraient l'une des pièces devraient la déplacer dans un autre endroit de la ville. Elles devront ensuite télécharger une photo de la pièce dans son nouvel emplacement afin d'aider quelqu'un d'autre à la retrouver. Chaque pièce est munie d'un code QR qui, lorsqu'il est scanné, renvoie à la page de la campagne sur Facebook où l'on peut télécharger la photo. Une citation de Crystal Pigeon-Wick, responsable de l'engagement communautaire à DOS, « Ceux qui trouveront les 4 pièces participeront à un tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois de juin et qui permettra de gagner des prix. » Julie Hayes, directrice adjointe de la librairie Bay Used Books, souligne que le partenariat avec Deaf Blind Ontario Services à Sudbury a débuté en 2024 et que la collaboration se poursuit cette année. On écoute maintenant Ariane Roy. Merci d'écouter au quotidien Canal M.
Ça recommence encore. Thank you.
Ariane Roy, ta main.
Oui, Ariane Roy et sa très belle chanson et son grand talent. D'ailleurs, on va pouvoir en profiter. Le 18 juin sera au Club Soda dans le cadre des Franco de Montréal. Et le 15, elle participe au spectacle 2, 30 ans déjà. On célèbre Céline Dion, surtout cet album 2 qu'elle nous a offert en 1995 déjà.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Pour l'amour que l'on donne mais qui s'abandonne, amour que l'on pardonne pour un rêve qui nous étonne, pour le coup retrouvé de la liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu, penser à rien, rêver un peu, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer.
La fin de cette chanson. Juliette Armanet, Partir un jour.
Oui, et c'est un titre qui fait partie de la bande originale d'un film qui s'intitule Partir un jour, film qui a ouvert le Festival de Cannes de cette année, film qui a été très bien reçu par la critique, le public, et Juliette Armanet tient un des rôles principaux du film qu'on pourra voir au Québec dès le 20 juin. Et là-dessus, on s'en va à Maria. J'aime ça dire ça, Maria, en Gaspésie, où nous attend Anne-Marie Aubin. Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour, Hélène.
Anne-Marie, est-ce que vous vous sentez en deuil de VLB?
Oui, bien sûr. Hier, quand j'ai appris la nouvelle, je savais qu'il allait pas bien depuis quelques années, mais là, je trouvais que, bon, c'est un choc et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ses romans et ses séries télévisées où la littérature avait toujours beaucoup de place, la poésie, la musique. Alors, je me sentais triste vraiment d'apprendre tout ça.
Ouais.
Un grand auteur qui n'a pas eu sa place, je trouve, ces dernières années. Par exemple, il était malade et il avait reçu un prix, je me souviens, c'est en France, et parce qu'il ne pouvait pas se rendre, ben, ils ont décidé qu'ils ne donnaient plus le prix. C'est un peu stupide, là.
Oui, parce que c'était associé à un montant d'argent et il ne l'a pas eu.
Voilà, c'est ça.
Oui, ça, c'était assez, assez stupide. Mais Victor Lévy-Beaulieu, oui, il faut saluer son immense apport à la littérature. Un homme de mots, un homme de lettres très important, oui, qui nous a quittés à 79 ans. Alors, je ne sais pas s'il a vécu une adolescence heureuse, Victor Lévy-Beaulieu, mais je pense que oui. il a vécu dans les grands espaces et ça a nourri certainement son œuvre, son imaginaire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un roman ado, catégorie ado, qui s'intitule « Mia Bella ».
Oui, un roman de Lucie Bergeron qui a publié aux éditions La Courte Échelle pour la première fois parce que tous ses autres titres étaient soit chez Soulière au Québec-Amérique. Et c'est un roman de 249 pages qui s'adresse à des bons lecteurs, je pense, parce que Lucie Bergeron s'adresse beaucoup aux petits dans sa collection. Et depuis 4-5 ans, elle a publié pour les ados, par exemple, Tu étais ma façon d'aimer en 2023, dont j'ai déjà parlé.
Un recueil de poèmes?
Oui, exactement. Et La fille qui voulait tout, ça, c'était sur la musique. Et puis, dans Le cœur de Florence, ben ça, ça a été mon coup de cœur. En 2020, j'ai découvert là une nouvelle autrice que je connaissais pas. Et ce livre a été finaliste au prix du vendeur général et au prix des libraires. Puis là, c'est un peu dans la même lignée qu'elle s'est intéressée aux adolescents et elle s'est inquiétée un petit peu sur les relations toxiques que des adolescents peuvent finalement tenir à long terme sans s'en rendre compte.
Oh.
Ce qui fait que des fois, on a des amis autour de nous et on dit, mais vraiment, comment est-ce que tout le monde se rend compte que c'est pas un gars pour elle? Puis on dirait qu'elle-même, la fille, est dans le déni.
L'amour est aveugle.
Exactement. Alors, dans ce roman-là, il est question d'adolescence, de famille. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Et puis, bon, ben, l'héroïne, qui s'appelle Livia Lavallée, est en secondaire 4. Elle doit choisir sa carrière. Elle vit seule avec sa mère, Rose, qui est monoparentale. Elle n'a jamais entendu parler de son père. Elle ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais elle imagine une vie que son père a eue. Et puis, elle a une grande amie qui s'appelle Fatine. Puis, bon, puis là, elle va à l'école. Et pendant un stage qu'ils ont fait, elle a rencontré un garçon qui s'appelle Xavier. Et puis, il est né de là une petite amourette que lui traite avec beaucoup, je dirais, de distance. Et puis, elle prend ça bien à cœur. Puis, elle se rend pas compte qu'elle a une relation toxique avec lui. Ils ont souvent des discussions qui tournent mal, des malentendus sur des textos. Et puis là, ben ça, plein d'adolescents vivent ça. Et je vous donne un exemple. Il lui dit un jour, si t'es pas prête à faire un effort pour moi, je vais rentrer voir mon chien. Il m'aime, lui. Et là, il s'en va. Et puis elle est triste. Puis souvent, elle se sent coupable que si ça va pas bien, c'est de sa faute. Elle exige trop. Elle devrait pas être comme si. Puis elle se trouve toutes sortes de défauts à elle, mais elle voit pas ses défauts à lui. Mais heureusement que son amie, Fatine, elle voit clair. Elle voit très bien que c'est pas ça. Puis elle va même mettre en péril leur amitié de longue date le jour où elle lui dit que vraiment, c'est pas un gars pour elle. Puis elle va le traiter de con. Et là, ça va pas. Là. Elle veut pas qu'on traite son chum comme ça. Bref, c'est une histoire très intéressante dans laquelle moi, je pourrais mettre des noms chez les personnages là, parce que j'en ai vu des ados comme ça. Et je trouve ça tellement triste. Puis nous, on s'en rend tout compte. On dirait... Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'elle sort pas de cette relation-là?
Il n'y a pas juste des ados hein, dans ce genre de relation-là non plus.
J'imagine, effectivement. Et puis, c'est qu'en même temps, quand c'est un ado, on voudrait intervenir parce qu'on dit qu'il est jeune, il ne voit pas clair, il n'a pas d'expérience, mais sans non plus être juge ou moral, en tout cas. Alors, cette fille-là, pourtant, elle a du caractère, elle est intelligente, elle est fonceuse et elle doit faire des choix, elle doit décider puis être en plein doute. C'est vrai que c'est difficile en secondaire 4 de savoir ce qu'on veut faire dans la vie puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Et bon, elle a une petite routine avec sa mère qui travaille très fort puis que pour s'évader, elle fait des casse-têtes le soir. Puis un samedi matin, arrive un homme à la porte qui frappe et puis il y a dans les mains des enveloppes de correspondance. C'est sa mère, la mère de Livia, qui avait écrit à son père biologique. Et les lettres n'ont jamais eu de réponse. Mais lui, il a retrouvé les lettres dans l'appartement du père biologique d'Olivia. Donc, c'est une révélation. Elle a 14 ans, elle apprend qui est là, pas loin de chez elle, puis elle le savait pas, puis la mère non plus, parce qu'il l'a fui. Et là, dans les lettres, il y a des photos de elle quand elle était bébé, quand elle va à l'école, je sais pas trop. Elle envoyait des lettres dans l'espoir d'avoir des réponses, puis à un moment donné, elle a arrêté d'écrire, la mère. Et à partir de ce moment-là, le récit bascule. Parce que là, finalement, Livia a un père, et cet homme-là, elle ne le sait pas, mais c'est son grand-père. Et puis, il est italien. Il s'appelle Fabio Tomaselli. Et puis, il nous dit que son fils, justement, c'est, qui se faisait appeler Philippe Thomas ici, mais c'était Filippo Tomaselli. Et lui, quand il est arrivé au Québec, Fabio Tomaselli, il a rencontré une Québécoise qui s'appelle Livia, L-I-V-I-A. Et par hasard, la jeune fille s'appelle Livia avec un Y. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que la mère le savait? Est-ce que c'est un hasard? En tout cas, on ne sait pas ça, mais c'est quand même étonnant. Et puis là, ben, elle va se trouver une famille. Elle va trouver tout à coup un grand-père. Puis là, lui, il va la prendre d'affection, c'est bien sûr. Puis elle, il a un commerce pas très loin de chez elle. Alors, elle va aller voir son commerce et puis il répare des choses électroniques. Il va lui apprendre à faire de la soudure. Et dans des choses pratico-pratiques, puis les relations que lui entretient avec sa femme, avec sa famille, tout ça va donner de l'espoir à la jeune fille et va la détacher un petit peu de cette relation toxique, parce que lui, il commence à dire, ben c'est ça, t'es toujours avec lui, le vieux, aux oreilles en porte de grange, et puis il insulte.
Pas gentil. Ce monsieur-là. Ouais.
Non, vraiment pas. Alors, ce qui fait que il va se passer quelque chose, c'est très intéressant. Puis, l'autrice que je connais pour avoir lu d'autres romans adolescents a une écriture poétique. Elle a aussi un univers très féminin. Donc, cette héroïne-là est toujours en train de fantasmer, et ça c'est typique des adolescentes, de fantasmer ce qui va arriver. Ils se font des scénarios. Ah, j'aimerais ça qu'il soit le même, qu'il fasse ci, puis qu'il fasse ça. Puis finalement, son chum ne voit rien de tout ça, mais elle s'aperçoit que son grand-père a cette relation-là avec sa femme. Puis elle dit, gardons, lui, il fait ça. Il y apporte des fleurs. Il est tout attentif à elle. Ce qu'elle cherche, ce qu'elle voudrait avoir. Et c'est ce contraste-là qui va lui faire prendre conscience que finalement, l'autre, il n'est pas fin avec elle, puis il ne sera jamais fin avec elle. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, elle découvre qu'elle a des cousins, parce que finalement, lui, il y a une autre, il y a une fille aussi qui a un fils. Puis tout ce petit monde-là, ben, ils vont évidemment graviter ensemble, et puis ça change la vie de tout le monde, et ça, c'est très positif. Ce que j'aime bien de Lucie Bergeron, c'est qu'elle tombe pas dans le panneau d'écrire cool pour que les jeunes lisent, là, d'écrire comme les jeunes parlent. Elle a un discours qui est à la fois varié dans son style. Par exemple, il y a des dialogues, des échanges de textos, de la prose poétique, des réflexions psychologiques profondes et à travers tout ça, des valeurs qui passent sans que ça soit trop moral, là. Et puis, elle va avoir plus tendance à parler comme les jeunes parlent dans les dialogues et dans les textos, mais le reste du temps, elle n'est jamais dans le familier, ce qui est parfois trop répandu, je trouve, dans les romans qui s'adressent aux jeunes.
Oui, puis on y croit moins, hein, c'est plaqué, puis ça vieillit mal.
Effectivement, oui, ça vieillit mal, parce qu'on n'a plus les mêmes expressions dans 5 ans après. Et le rythme est celui de Livia, c'est-à-dire que le rythme est lent. C'est tous des petits fragments, des petits chapitres. On suit la réflexion de Livia, puis des fois, on trouve qu'effectivement, elle est lente, mais c'est ça, être un adolescent. Et on voit peut-être venir les choses aussi, mais ça se passe tranquillement, dans la douceur, la tendresse, beaucoup de bienveillance, et on cherche pas l'efficacité avec le punch à tout prix, c'est pas ça du tout. On vit les doutes, la recherche d'identité de cette jeune fille-là.
Est-ce que ça peut être considéré comme un roman adulte aussi?
Ben, moi, je pense que les adultes ont plaisir à le lire comme je l'ai eu moi-même.
Bien oui, on dirait, à vous entendre, là, vous êtes complètement, vous vous êtes laissé happer par l'histoire.
Oui. Ben moi, l'écriture de Lucie Bergeron, là, tous ces romans ados, je les ai tous lus et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de peut-être anachronique parce qu'elle ne suit pas la mode, mais justement, ça va être dans la durée. C'est un roman qu'on va lire longtemps et qu'on lit avec en tant qu'adulte aussi, qui côtoie des adolescents. Ça peut être très intéressant en tant que parent, en tant qu'éducateur. Et puis, bon, ben, on connaît tellement de gens comme ça qui sont dans le déni. Et comment l'amitié est bien plus importante que les petites chums que t'as, là, sur la route. Il me semble que ça, son amie Fatine est plus importante. Et aussi, il y a tout le lien de la famille. Alors, il y a tellement de choses que moi, j'aurais quasiment fait 2 romans avec ça. Parce que la relation amitié-amour-adolescente est une chose, et toute l'histoire familiale, le fait de ne pas avoir su qu'elle avait un père, de le découvrir. Puis là, elle va vraiment créer une amitié avec le grand-père qui va lui apprendre des choses dans sa petite boutique.
Mais est-ce que c'est trop?
Non, c'est que moi, j'en aurais pris de plus. C'est ce que je veux dire.
Ah, il y aura peut-être une suite.
Oui, parce que lui, il lui montre des choses pratico-pratiques. Et là, elle, à l'école, elle ne sait pas quoi faire, puis elle a une espèce de texte à écrire sur sa carrière future, parce que c'est vraiment pas, parce que d'année en année, on recycle les mêmes textes quand ils nous demandent d'écrire ça. Mais là, parce qu'elle fait des choses pratiques, qu'elle voit, elle apprend à souder, par exemple, il travaille dans l'électronique, ben là, ça lui donne envie de poursuivre ses études dans ce sens-là, au moins pour apprendre ces choses-là. Et ça, c'est ce qui manque aux jeunes, c'est des expériences pratiques. On leur donne des cours théoriques et puis, mettons, quelqu'un veut être plombier, mais il ne sait pas du tout comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'aller accompagner un plombier puis voir si vraiment ça te plaît. Bon, ben là, elle trouve un peu une orientation à sa carrière à travers tout ça.
En plus, grâce à son grand-père.
Oui, et puis l'amitié, puis lui, évidemment, il est heureux de la retrouver parce que c'est un mystère tout ça. On ne sait pas ce que le père a dit. Le père est complètement absent du texte. Alors, ça pourrait être une suite, effectivement, l'histoire du père là-dedans d'où il vient. Et à la fin, l'autrice, elle remercie des gens autour d'elle qui l'ont aidée à faire ça. Et je crois qu'elle s'est documentée, qu'elle a fait des recherches pour traiter de certains aspects de la problématique du roman. Et ça, ben, effectivement, ça lui ressemble. Alors que, bon, dans le futur texte que je lance dans l'univers comme ça, il pourrait être question de la relation de ses parents et pourquoi ils sont plus ensemble, puis comment est-ce que ça s'est passé tout ce temps, où était-il lui? Alors, bref, un très beau roman qu'il faut lire lentement, bien écrit, avec des passages qui sont très réalistes. C'est pas du tout... Trop idéalisé, même si on sent que ça va bien aller à la fin, il y a plein d'espoir et tout ça, mais il y a des dialogues qui sont cruels entre son chum et elle, et parfois ses petites crises d'adolescence avec sa mère aussi, comme quoi rien n'est facile,
ouais.
Mais que c'est ça, traverser l'adolescence.
Tout à fait.
Très beau livre.
Ouais. Est-ce que vous avez eu le même coup de cœur que vous aviez eu pour Dans le cœur de Florence, toujours de la même autrice?
C'est différent. Je dirais que ça ressemble à La fille qui voulait tout. C'est Le cœur de Florence, j'ai l'impression, je connais pas Lucie Bergeron, mais j'ai l'impression que c'est vécu. C'est ça qui m'a
changé. Ah ouais.
Et je sentais quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même. Dans l'autre, La fille qui voulait tout, c'est un très beau portrait de la situation des adolescents dans la performance. Et dans celui-là, ben, c'est des adolescents en quête d'identité. Alors, c'est un très beau portrait social, c'est un roman social, mais en même temps très féminin.
Puis, et bien écrit.
Oui, bien écrit.
Mia ouais. Bella par Lucie Bergeron, publié aux éditions La Courte Échelle. Merci beaucoup pour cette chronique, Anne-Marie. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine.
Non, je serai en voyage. Je reviens au mois de juillet parce qu'après, c'est la Saint-Jean-Baptiste.
Oui.
Alors, je serai là le 1er juillet.
Je l'avais écrit dans mon agenda en plus. Bon, bien, on va s'ennuyer. Okay, portez-vous
merci.
Bien. Bye-bye.
Au revoir.
Même si ces choses du passé, ça ne cesse de me hanter. Ah, ah, je n'essaie pas de changer, j'arrête pas d'abandonner. J'ai l'impression de vivre à moitié. Je ne peux plus bouger.
sur moi tous les yeux sont rivés. Ça m'empêche de danser et je suis content quand je pleure, quand je me vais de le cœur. Après je me sens
la chanson de Velours Velours, quand je pleure, je suis content.
Velours Velours qui sera aussi au Franco 2025, 36e édition, cette année qui s'ouvre vendredi. Renaud Miroy accroche son micro, c'est une véritable page d'histoire qui se tourne à Radio-Canada, écrit Étienne Paré dans la presse. Renaud Miroy prend sa retraite. Des ennuis de santé empêchent cependant l'animateur de 85 ans de faire ses adieux comme il l'aurait souhaité. Les deux derniers épisodes de Culture Club qu'il anime depuis 2013, le samedi après-midi sur Ici Première, seront des rétrospectives des meilleurs moments de l'émission. Dans un message enregistré qui sera diffusé durant la grande dernière du 21 juin, le vétéran de la radio pourra au moins dire au revoir à ses auditeurs. Radio-Canada a précisé qu'il était déjà prévu depuis quelques semaines que Renaud Miroy tire sa révérence à la fin de la saison. Ses problèmes de santé se sont présentés plus tard et n'ont donc pas influencé sa décision. Chose certaine, la fin de son émission signe assurément la fin d'une époque depuis le départ de Joël Lebigault et de Michel Desautels. Il était en quelque sorte devenu le dernier représentant de sa génération encore à l'antenne d'Ici Première. Par voie de communiqué, lundi, Renaud Miroy a tenu à faire savoir que la transmission de sa passion pour la culture aura été le fil conducteur de toute sa vie. « J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec d'autres passionnés fougueux comme moi le désir de transmettre, de propulser les artistes et de célébrer la culture. Je quitte, rempli de souvenirs précieux et de gratitude, mon micro s'éteint. Mais ma passion pour la culture demeure », a indiqué celui qui est riche de plus de 60 ans de carrière. Son érudition et son franc-parler auront forgé sa légende. C'est d'abord en presse écrite qu'il a fait ses premières armes. Il a notamment dirigé les pages culturelles de la presse de 1969 à 1973 et celles du défunt Petit Journal. Il a également fondé les magazines spécialisés Nous et Tiquette. Dans les années 80, Renaud Miroy passe à la télévision de Radio-Canada où ses critiques parfois assassines marqueront les esprits. De 1983 à 1989, il a co-animé le magazine cinématographique à première vue avec Chantal Joly, avant de se joindre à la mythique bande des six entre 1989 et 1993. En 1998, Renaud Miroy devient l'animateur de l'émission matinale de la radio de Radio-Canada. Il restera à la barre de ses bien meilleurs le matin jusqu'en 2012, durant la même période. Il a également animé « Viens voir les comédiens », une série de grands entretiens avec des acteurs sur Ici, Art TV. Par voie de communiqué lundi, la direction de Radio-Canada a tenu à souligner son important legs pour la culture. Renaud Miroy aura été un animateur culturel au plein sens du terme tout au long de sa longue carrière. Peu de gens ont fait autant que lui pour faire connaître les artistes et leurs œuvres dans toutes les sphères de la création. Il laisse un héritage précieux à cet égard à saluer Natacha Mercure, directrice générale audio et radio de Radio-Canada. L'annonce de son départ a entraîné plusieurs réactions sur les réseaux sociaux de la part d'auditeurs et d'autres personnalités de la radio, tous rendant hommage à un véritable monument de tous les commentateurs culturels des 60 dernières années. René est le grand Jedi, le Merlin l'Enchanteur, le druide Panoramix, celui qui connaît le secret de la potion magique, permettant de captiver en racontant un livre, un film, une pièce, un album, qu'il soit excellent ou vraiment poche, a notamment écrit sur sa page Facebook le chroniqueur Stéphane Laporte. Et moi, pour le paraphraser, je dirais que René Aumirois était toujours infiniment distrayant. Et René Aumirois, pour moi, c'est un mentor, un homme de culture incomparable. Heureusement, il est toujours en vie et on lui souhaite un prompt rétablissement. Je vous laisse avec Mancini. Ici Hélène Denis. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain à compter de 9h30.